Chapitre 63. En d'autres temps, Nathan jubilait lorsqu'il se trouvait en présence de tant de livres et de connaissances. Les secrets et les récits contenus par des centaines de volumes avaient un peu adouci sa longue captivité au palais des prophètes. Hélas, à cause de son radahan et d'une multitude de champs de force et de sorts de protection, il n'avait jamais eu accès aux grimoires jalousement conservés par les sœurs de la lumière. Malgré cette limite, les légendes, les récits historiques et même les contes folkloriques avaient rompu la monotonie de son existence. Quand le changement stellaire avait rendu obsolètes tous les recueils de prophéties, Richard, son lointain descendant, lui avait proposé de se constituer une bibliothèque pour son amusement personnel et peut-être aussi afin de ne pas perdre définitivement certains textes. Nathan avait refusé. Après tant de siècles de lecture, il n'avait plus qu'une envie, sillonner le monde et écrire sa propre histoire, exactement ce qu'il était en train de faire. Et il tapota dans sa sacoche le mystérieux livre de vie que Rouge lui avait donné. Au lieu de vivre, voilà qu'il était de nouveau condamné à lire, plus ou moins pour sauver le monde. Voyant Mia approcher avec une nouvelle brassée d'ouvrages, il ne put retenir un soupir. Sorcierale, j'ignore ce qu'ils contiennent, mais ils ont l'air intéressants. Mia présenta à Nathan un vieux livre en piteux état. Tôt ou tard, nous découvrirons ce qu'il nous faut. Surplomb du monde détient les réponses à toutes les questions. Le hic, c'est de les trouver.
Veux-tu dire, cher enfant, que les sorciers du temps de Baracus et de Mérite savaient tout ce qu'il y avait à savoir sur tout?
L'archiviste fronça les sourcils comme si le sorcier remettait en question sa raison de vivre. Bien sûr. Toutes les connaissances ont été entreposées ici pour être préservées. Toutes. Nathan regarda la jeune femme avec une indulgence paternelle.
Je me réjouis que tu fasses une telle confiance à tes ancêtres.
Ils étaient bien plus puissants que nous.
Certes. Mais s'ils savaient tant de choses, pourquoi ont-ils échoué?
Mia foudroya le vieil homme du regard. Avoir les connaissances n'est pas tout, il faut aussi savoir les utiliser.
J'aimerais partager ton optimisme, cher enfant.
Nathan ouvrit le livre. Gonflées et froissées, les pages semblaient avoir été mouillées puis mal séchées. Sur certaines, l'encre avait coulé, rendant le texte illisible. Nathan prit un autre volume et l'épousta.
D'où viennent ces livres? D'une décharge?
Mia rosit. Après que la magicienne eut foré une ouverture vers les salles scellées, dans la tour endommagée, nos ouvriers se sont servis de piques et de pioches pour accéder à d'autres pièces murées. Certains volumes ont souffert de ce traitement. Jusque-là, personne ne s'est intéressé à eux, mais j'ai jugé utile que vous les consultiez juste au cas où. Nathan prit un troisième ouvrage et tenta de déchiffrer le titre en relief.
D'après ce que j'ai entendu dire, la tour fondue contenait exclusivement des recueils de prophéties, des textes qui ne nous aideront pas.
Non. La section prophétie se trouvait dans les étages supérieurs. Vers la fin de la construction de Surplomb du Monde, les antiques sorciers, harcelés par les forces de Sulacane, ont accéléré le rythme. Dans les sous-sols, ils ont empilé tout ce qui leur tombait sous la main. Personne n'a jamais vu ces livres, sorcière Al, à part vous.
Eh bien, cher enfant, je suis ravi d'avoir cet honneur.
Nathan tapota une chaise libre à côté de lui.
Tu veux bien m'aider, jeune fille? Je n'ai que deux yeux et ensemble nous irons beaucoup plus vite.
Mia rayonna. J'adorerais ça. Elle s'assit, prit un livre au hasard et tenta de le déchiffrer. Au milieu de la forêt renaissante, son esprit, son cœur et son âme, Victoria sentait la magie pulser en elle, et par extension dans tout ce qu'elle avait créé ces derniers temps. Pour elle, la balafre avait toujours été un fardeau aussi lourd à porter que ses fausses couches puis sa stérilité. Contrairement à ce qui lui avait toujours été refusé dans sa vie d'épouse, elle détenait aujourd'hui le pouvoir de créer et de posséder la vie. Pour s'en convaincre, il lui suffisait de regarder sa merveilleuse forêt. La croissance était extraordinairement rapide, ce qui ne la gênait pas du tout. D'abord la vallée, ensuite les montagnes, puis tout l'ancien monde et... le triomphe de la vie sur la mort. Sa victoire, qu'elle ne se laisserait voler par personne. Victoire. Victoria. Parfois le destin avait de ses ironies. Elle était la maîtresse de la vie, dotée d'un pouvoir capable de rivaliser avec celui du Créateur. Alors qu'elle réfléchissait à son nouveau rôle, des buissons poussaient autour d'elle, leurs lianes couvertes d'épines et leurs fleurs exhalant un parfum hypnotique. Les arbres grandissaient si vite qu'ils se renversaient les uns sur les autres, mais les troncs morts abritaient des insectes qui participaient au cycle de la vie. De plus, des mousses et des lichens les décomposaient en faisant de l'engrais qui lui aussi créait de la vie. Une infinie création. Audrey, Laurel et Sage, aussi vibrantes de fertilité que leur mère, étaient parties en croisade dans la jungle primitive. Ambassadrice de la régénérescence, elle s'occupait des arbres, des insectes et des oiseaux. Victoria ne relâchait pas ses efforts. Un jour, le monde serait de nouveau pur. La maîtresse de la vie ne pouvait pas se satisfaire de rendre sa beauté à une petite vallée. Son rôle, elle le comprenait enfin, était beaucoup plus important que ça. Toutes les générations de mémoristes avaient vécu pour elle et pour ce moment. Dans leur savoir, elle puiserait tous les sortilèges requis pour que sa grande œuvre s'accomplisse. Alors que sa forêt luttait victorieusement contre la désolation, son corps végétal se développait et son esprit lui offrait de plus en plus de souvenirs, des secrets magiques qu'elle possédait depuis toujours, mais sans le savoir. Le sorcier Nathan et la magicienne Nietzsche avaient cherché dans les archives un moyen de détruire le buveur de vie. Sans aucun doute, ils s'efforçaient désormais de trouver une arme contre elle. Mais elle ne se laisserait pas faire. Liée au pouvoir de la vie et du Créateur, elle se révélerait plus forte que ses deux adversaires. Pour autant, elle ne commettait pas l'erreur de les sous-estimer. Même si Nietzsche revendiquait la victoire sur le buveur de vie, Victoria savait que le gland avait joué un rôle prépondérant. Mais la magicienne restait puissante et il ne fallait pas qu'elle vienne déranger la maîtresse de la vie. Cette Nietzsche était une nuisance qui fourrait son nez partout. Presque privé de sa magie, voire totalement, Nathan Rall restait néanmoins un érudit et un homme expérimenté, donc une menace. Ce type n'était pas n'importe qui et elle ne devait pas le tenir pour quantité négligeable. Deux adversaires. Dans la bulle de verdure de Victoria, les arbres, les lianes et les champignons étaient une source de vie permanente, et les bourdonnements d'insectes résonnaient à ses oreilles comme une symphonie. Plus sa sagesse et sa puissance augmentaient, plus la maîtresse de la vie se remémorait des incantations et des sorts précieux, entreposés des millénaires plus tôt dans les archives par les bâtisseurs de surplomb du monde. Grâce à ses connaissances, Victoria savait comment fabriquer une arme capable d'abattre Nietzsche et Nathan, voire de détruire le complexe pierre après pierre. Pour activer cette magie, elle n'avait même pas besoin de bouger puisqu'elle était la forêt, chaque feuille, chaque branche, chaque aile d'insecte. Tout faisait partie d'elle et lui appartenait. Libérant sa magie, elle donna le jour à son émissaire, un assassin investi du pouvoir de la jungle primitive, un Shaxi, entièrement composé de débris et de détritus trouvés dans la forêt. Avec son esprit et sa magie, Victoria rassembla des branches mortes et des brindilles pour constituer le squelette de son Shaxi. Cette structure tissée, elle y ajouta des touffes d'herbes, des feuilles et du paillis naturel. Pour gonfler les muscles, de la mousse conviendrait parfaitement. Une armée de vers, de cafards et d'autres insectes rampants vint renforcer l'assassin végétal. Quand il tendit les bras et fit ses premiers pas hésitants, tout son corps grouillait de vie. Deux énormes scarabées iridescents remontèrent le long du corps du tueur, gagnant sa tête ronde formée avec des brindilles pliées et des feuilles de saule. Sur le visage, à la peau d'écorce et aux cheveux d'herbe sèche, deux trous se formèrent et les insectes s'y nichèrent pour devenir les yeux du Shaxi. Sous le nez en lichen, une branche fendue faisait une bouche parfaite. Des lianes vertes s'enroulèrent autour des jambes du tueur, puis s'enfoncèrent à l'intérieur pour devenir des vaisseaux sanguins gorgés de sève. Dans un concert de grincements, le Shaxi avança avec plus d'assurance. Pliant et repliant ses doigts de bois, il regarda autour de lui avec un regard malveillant. Pure extension de la forêt, Le tueur était la marionnette de Victoria. Son bras armé, dépourvu d'âme, mais pas d'une forme instinctive de loyauté. Victoria fit à la créature un sourire maternel. Puis elle posa les mains sur sa poitrine faite de briques et de brocs et sentit la vie qu'elle y avait déposée. Son nouvel enfant. Dans l'esprit vierge du Shaxi, elle infusa les détails de sa mission. La magicienne blonde et le vieux sorcier pompeux à la crinière blanche. Trouve-les et tue-les. Ma bénédiction est avec toi. Le pantin végétal se détourna, sortit de la forêt et prit la direction de surplus du monde.